Rescapé Rétro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Les universités congolaises font face à un sérieux problème des préparations de la relève. Les enseignants prennent de l'âge, et plusieurs autres sont décédés. Cependant, leur remplacement progressif pose un problème. Cela va certainement avoir des répercussions néfastes sur la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, que faut-il faire pour résoudre ces problèmes épineux? On en parle avec le professeur Barthélémy Kalambaye Banza. Il est démographe. Encore une fois, bonjour professeur.
Bonjour, bonjour.
Alors, la relève, ça pose toujours problème dans nos universités.
Oui, la relève pose problème et je pense que ça posera davantage de problèmes si jamais cette question n'est pas prise au sérieux. Nous sommes en train de rentrer pratiquement en arrière à la situation d'avant l'indépendance, la situation des années 60, lorsque l'université a été ouverte dans notre pays.
Professeur, quelles sont les raisons qui font qu'on n'est pas aujourd'hui à mesure de bien assurer la relève des enseignants dans nos différentes universités?
Les raisons sont multiples. Je pourrais dire qu'il y a d'abord un problème de politique d'une manière générale. La politique de cette relève, la politique de l'enseignement supérieur universitaire, la politique de la recherche scientifique, mais je pourrais même dire que la politique de l'éducation nationale en général dans notre pays. Et donc, lorsqu'on rentre à l'intérieur de cette politique, il y a vraiment une absence d'une vision. Il n'y a pas de vision. Et je dirais même que la question de l'éducation nationale, la question de l'enseignement supérieur universitaire, de la recherche, cette question ne fait pas partie des priorités de notre politique nationale. Et donc, à partir du moment où cela ne fait pas partie des priorités, on voit très mal comment on peut penser à la relève. On ne peut pas penser à la relève. Aujourd'hui, parler de la relève. Tout ce que nous vivons, c'est vraiment un problème d'absence d'une politique cohérente dans ce domaine.
Alors, vous êtes démographe, est-ce qu'en termes de pourcentage, est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, à l'université de Kinshasa, combien de professeurs ont pris de l'âge, combien sont décédés, combien sont allés vivre ailleurs, tout ça? Est-ce qu'on a toutes ces données aujourd'hui?
Vous devez également savoir que notre pays est champion dans le domaine de la carence des données statistiques. À l'université de Kinshasa, excusez-moi, je ne suis pas l'animateur de l'université. Je sais que avec le professeur Ngondo, déjà en 1999, nous avons tenté de faire une telle étude à l'université. Ça n'a pas été non plus facile pour pouvoir avoir les informations. D'une manière assez vague, je vous dirais que l'université de Kinshasa a environ 700 professeurs. Et lorsqu'on parle de 700 professeurs, il faut savoir, d'après la Pukine, qu'il y a un professeur qui meurt chaque mois. En moyenne, 12 professeurs meurent à l'université de Kinshasa.
Par mois?
Quand on dit en moyenne 12 professeurs, ça veut dire que par mois, il y a un professeur qui part.
Qui meurt.
Ouais. Oui. Et les professeurs qui partent, c'est généralement des professeurs qui étaient censés...
Des professeurs ordinaires.
Bon, tout le monde part, mais la mortalité est plus élevée à des âges également élevés. Et c'est donc des vieux professeurs, des professeurs avec une grande expérience. Ce sont ces professeurs-là qu'on pouvait qualifier de bibliothèques dans notre société qui ont une grande probabilité de partir. Les raisons pour la mort des professeurs, principalement à l'université de Kinshasa, c'est parce que d'abord, ces professeurs sont surchargés. Un professeur de 60 ans, 65 ans, ne devrait pas encadrer plus de 300, 500 étudiants. Et un professeur de cet âge-là ne devrait pas courir toute la République pour pouvoir réunir un peu de moyens pour pouvoir survivre.
Il y a certains qui enseignent dans 2, 3, 4 établissements.
Même plus.
Même plus.
C'est-à-dire le professeur est entre deux avions. Et dans quels avions? Et par moments, ils prennent des motos. Il y a un collègue qui est mort du côté de l'Odia Tchoumbé parce qu'il a fait une crise, le temps de l'amener à l'Odia jusqu'ici. De l'aéroport, il était au Clinique Galiema, des Clinique Galiema au cimetière. Et donc, les conditions de travail, les conditions de vie des professeurs, ça ne peut pas permettre à ces cadres supérieurs de pouvoir vivre correctement et encadrer correctement et les étudiants et les scientifiques qui sont à leur charge. Donc, je disais que c'est un problème général, un problème de politique, un problème de politique générale.
Donc, il n'y a pas une politique qui assure la relève. Une politique dans ces secteurs-là, rien n'existe.
Bon, quand on parle de la relève, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup
et
de choses.
Et tous ces jeunes assistants, les chefs des travaux, plus tard, qui sont appelés aussi à devenir des professeurs.
Mais justement, quand je dis que la relève, ça prend beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments rentrent là-dedans. Il faut commencer d'abord par l'enseignement primaire et secondaire, parce que c'est ça la base, pour pouvoir amener un jeune homme, une jeune fille à l'université. Ce jeune homme, cette jeune fille qui arrive à l'université doit pouvoir se distinguer des autres. Et pour pouvoir être recruté assistant à l'université, il faut avoir au moins une distinction dans notre système.
Oui.
Une distinction en première licence, au moins une distinction en deuxième licence. Et lorsque on voit les conditions de travail aujourd'hui, même ces jeunes gens qu'on recrute, parfois n'ont pas de niveau pour pouvoir faire de la recherche, être à mesure de faire de la recherche. Et là également, il y a des choses qu'il faut le dire. Il y a trop de complaisance dans le recrutement de ces assistants.
Il y a trop de complaisance actuellement.
Oui, il y a la complaisance. Parce qu'on veut aujourd'hui avoir un cousin, un neveu, un quoi, un qui parmi les cadres universitaires, parmi les assistants, parmi les professeurs.
Et donc, il y a plus de critères objectifs.
On assiste à des mémoires, défense de mémoire bidons. On assiste à des cotations fantaisistes. On ne dit pas que tous les professeurs se comportent de cette manière-là, mais de plus en plus on trouve qu'on n'a pas de cadre compétent parmi les cadres scientifiques. Quand bien même il y en a pas mal qui sont très bons.
Oui.
Mais lorsque vous avez des cadres, c'est-à-dire des assistants comme ça, qui ne méritaient pas d'être là où ils sont, eh bien, vous pouvez beau les encadrer, vous pouvez beau faire quelque chose, ils ne vont pas parvenir à ce que nous voulons, c'est-à-dire arriver à remplacer un maître. Bien, ça c'est un aspect.
Mais le maître va toujours s'assurer d'avoir à côté de lui un remplaçant valable.
Oui, mais malheureusement, il y a un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique, ça se pose sérieusement. Au niveau de la PUKIN, je parlerai de la faculté des sciences économiques où on a dû mettre en place un comité d'éthique. Un comité d'éthique pour réguler un certain nombre de choses, de comportements au niveau de la faculté. Et cette initiative de la faculté des sciences économiques a été encouragée, saluée par les autorités de l'université de Kinshasa et au niveau de la PUKIN. Bien.
L'association
des professeurs de l'Université de Kinshasa.
Oui.
Bien. On voudrait bien avoir ce genre de structures qui sont informelles. Ce genre de structures, si on peut les formaliser, on peut encadrer un certain nombre de choses pour qu'on puisse parvenir effectivement à cette relève. Et donc, je disais qu'il y a un problème d'abord au niveau de recrutement de ces assistants. Même si l'assistant qu'on a recruté est compétent, l'assistant doit manger. L'assistant a des charges socio-économiques. Mais cet assistant a quel salaire pour que l'assistant puisse rester à l'université et se consacrer à ses termes de référence, l'accomplissement de ses termes de référence. Ce qui fait que, quand bien même le professeur a besoin de l'assistant pour pouvoir être avec lui, l'assistant doit être encadré, mais du jour au lendemain, vous apprenez que l'assistant est engagé dans telle banque. Il est dans telle entreprise et il est cadre politique dans un parti politique qui...
Il n'a plus le temps de venir...
Le professeur va chercher l'assistant, l'assistant ne sera pas là. D'ailleurs, à partir du moment où l'assistant est trop pris, du lundi à vendredi, de 8h à 20h, l'assistant devient un assistant du week-end. Donc l'assistant ne va voir, ne peut voir le professeur que le week-end.
Le week-end.
Bien. Et quand il vient, et il est en tenue relaxe parce que ça devient du loisir. Et ce qui était l'activité principale devient une activité secondaire.
Secondaire, oui.
Bien. On va dire que le professeur n'a pas le temps d'encadrer les assistants ou les chefs de travaux, pendant que le chef de travaux est un boss au centre-ville. Le chef de travaux, c'est plutôt le chef de travaux qui, en d'autres termes, est le chef de son professeur.
De son professeur.
Ça, c'est une manche. Et lorsqu'on regarde encore les autres aspects de choses, le professeur lui-même, même si l'assistant est disponible, le professeur est aussi cadre supérieur dans une entreprise. Il n'a le temps que le week-end. Et parfois pas.
D'accord. Professeur Barthélémy, je reviens à vous dans quelques instants. Comment préparer la relève à l'université? N'attendez pas les dernières minutes. Appelez-nous déjà au 081 890 63 94 pour participer. Le professeur est là pour répondre à vos préoccupations. Envoyez-nous également vos SMS au 081 711 50 01.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Comment préparer la relève à l'université? Professeur Barthélémy Kalamba Banza, démographe, est notre invité. Appelez-nous, n'attendez pas les dernières minutes, composez les 081 890 63 94 pour participer à cette émission. Alors professeur Barthélémy, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour assurer cette relève, pour préparer la relève des enseignants qui sont malades et certains qui disparaissent?
Bien, merci Jody. En fait, qu'est-ce qui doit être fait? J'ai dit, il faut d'abord commencer par revisiter la politique, si jamais il y en a. Mais à ma connaissance, cette politique, il y a une politique implicite, je dirais, une politique implicite qui n'est pas de nature à encourager cette relève. Ça, c'est ma manière de voir les choses, ma manière de vivre les choses. Il n'existe pas un texte clair qui montre le chemin à suivre pour pouvoir arriver à la défense d'une thèse de doctorat dans notre pays. Chaque établissement se comporte comme on veut. Aujourd'hui, vous avez des DEA ici et là, c'est-à-dire on forme
diplôme d'études approfondies. Oui.
Pendant que dans un même établissement, telle faculté forme les candidats ou les étudiants, les apprenants au DEA, dans une autre faculté, c'est le DS, c'est le diplôme d'études spécialisé.
D'ailleurs, on a appris que le gouvernement a suspendu toutes ces structures-là dans plusieurs universités. Sauf à l'Unikin, peut-être, et à l'Unikin, c'est à Lubumbashi.
Oui, je salue cette mesure du gouvernement. Je crois que là, le gouvernement s'est réveillé. Mieux vaut tard que jamais. Oui, le gouvernement s'est bien réveillé et cette mesure-là, je sais que ça fait beaucoup de mécontents. Je me suis amusé à aller sur votre site pour voir par rapport à cette question. J'ai vu qu'il y a une dizaine de réactions des internautes qui ont réagi favorablement à cette mesure. Mais j'ai trouvé encore un compatriote qui, lui, a vraiment saqué le gouvernement par rapport à cette question.
D'accord. Le temps d'accueillir un auditeur, Prosper Niembo, il nous appelle des Bukavu. Bonjour Prosper.
Et bonjour cher ami, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je salue également le professeur qui est l'invité du jour. C'est un sujet très très intéressant, mais aussi pertinent dans notre pays pour l'encadrement de la jeunesse.
Oui.
Je suis vraiment intéressé par l'émission. Au début, le professeur voulait même nous parler comment notre université marche en reculant. Il a un peu rappelé les années d'indépendance. J'aimerais qu'il revienne un peu là-dessus pour éclairer la lanterne. Bon, qu'on insiste sur la politique interne même de l'université. C'est vrai, l'éducation, au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup à faire. Mais d'abord, au niveau même de l'université elle-même, parce que le Vademecum, qui est un instrument de travail, prévoit mieux comment on peut arriver à assurer la relève. de l'université. Mais bon, malheureusement, il y a vraiment beaucoup de difficultés, comme il a même souligné. J'aimerais qu'il insiste là-dessus, surtout les problèmes éthiques. Ça serait très important pour l'avenir de nos universités. Merci beaucoup.
Bien.
Qu'il revienne un peu aussi à cette question historique, comment nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer. Merci beaucoup, cher professeur. Mmh.
Bien,
salut.
Merci d'avoir appelé Prosper Niembo de Bukavu. Giscard Diana nous appelle de Guémena. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bon début de la semaine à tous les auditeurs de la radio Capi. Également notre invité.
Giscard, quelle est votre question?
Oui, je voulais poser la question à notre invité. Que les professeurs qui se déplacent pour enseigner dans des provinces, elles, est-ce qu'il se déplace par son propre moyen ou par les moyens du gouvernement? Merci.
Mais non, aujourd'hui, on parle de la relève, non pas du déplacement des professeurs. On parle de comment assurer la relève dans nos différentes universités. Merci d'avoir appelé pour participer et composer les 081-890-63-94. Appelez et dites-nous dans votre province, là où vous êtes, comment ça se passe dans votre université. Est-ce qu'il y a une politique interne pour assurer la relève des professeurs, des enseignants? Professeur Barthélémy, vous avez la parole.
Oui, merci, merci Jody. Merci à Prosper Niembo à Bukavu. Je disais que nous sommes en train de rentrer à l'époque des années 60 dans notre pays, alors que en ce moment, la réalité sociodémographique, la réalité en termes dans le domaine de la recherche scientifique n'est plus la même. Lorsque l'université a été ouverte dans notre pays, il y avait seulement 33 étudiants. Et en termes d'encadrement, ces étudiants étaient très très bien encadrés, parce qu'il y avait des professeurs belges principalement qui les encadraient. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 000 étudiants. Plus de 150 000 étudiants avec environ 1400 professeurs sur l'ensemble du territoire. En tout cas, on ne dépasse pas 1500. Et ici, je parle de docteurs de thèse. Et lorsque vous regardez, en d'autres termes, le taux d'encadrement, nous sommes au-delà d'un professeur pour 350 étudiants. Et pendant la période coloniale ou encore après les années 70, les vieux professeurs qui sont en train de nous quitter aujourd'hui, c'est des personnes qui avaient été très très bien encadrées. Vous n'avez qu'à aller à l'université de Kinshasa où vous trouverez les mêmes auditoires qui avaient accueilli ces actuels professeurs comme étudiants, qui sont en train d'accueillir leurs petits-fils et leurs petites-filles.
Les mêmes auditoires.
Les mêmes auditoires. Et ces auditoires n'ont pas bougé en termes d'espace, on n'en a pas ajouté. Et là où il y avait d'ailleurs des auditoires, des restaurants pour ces vieux professeurs, quand ils étaient étudiants, on a remplacé des restaurants en auditoires. C'est quand même grave. Et donc, en termes d'encadrement de ces étudiants, qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui espérer d'avoir comme qualité d'étudiant? Parce que l'étudiant voit son professeur à travers la fenêtre. Alors qu'autrefois, l'étudiant et le professeur étaient face à face. Bien, un étudiant qui a été formé comme ça, il voit son professeur à travers la fenêtre jusqu'à la fin. Et le professeur ne connaît pas qui est son étudiant. Il peut le rencontrer sur la route et il ne le connaîtra pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Oui. Et lorsque je suis dans un auditoire, 350 étudiants, je ne sais pas qui est étudiant, qui n'est pas. Eh bien, à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat?
Et donc, il a parlé aussi de chaque université devrait avoir une politique interne pour préparer les élèves.
Oui et non. Il faut vraiment faire attention avec cette histoire d'une université qui doit préparer sa politique, qui doit faire sa relève. La politique, oui. Mais faire la relève dans la manière dont nous entendons ici, personnellement, je m'inscris en faux. Lorsque vous allez sur les sites internet, vous tapez offre, appel d'offres. Vous trouvez dans les grandes universités, on fait un appel d'offres. On appelle, il y a une compétition des dossiers. Je suis docteur, je suis candidat professeur. Je peux aussi concourir. Et j'envoie mon dossier, je passe à un panel de recrutement. Et si mon dossier est bon, je suis recruté. Ça, c'est ce qui se fait ailleurs. Chez nous, nous avons la politique de grands-parents. Oui, chaque université doit avoir sa relève. Et maintenant, lorsqu'on rentre dans chaque université qui doit avoir sa relève, et il y a la dérive. La dérive, c'est que il y a un slogan, les étudiants le disent, il y a une étude, il y a pas d'étude là-dessus pour dire les enfants d'abord.
Les enfants d'abord.
Oui, j'entends les étudiants chaque fois quand on parle
les enfants. Ils disent que les professeurs favorisent leurs enfants, ils donnent beaucoup de faveurs à leurs enfants pour les remplacer plus tard.
Si c'est, cela est vrai, c'est parce que il y a pas cette politique de compétition. Il n'y a pas
la politique des compétitions. D'accord. On va recevoir Serge Kini de Kingi de Kindu et Neville de Kananga. Serge, bonjour. Serge, bonjour. Vous êtes à Kindu. Quelle est votre question, Serge?
Oui. Oui, ma question est de savoir. Ce qu'on doit savoir d'abord, à quel âge dont on peut être appelé pensionné ou on peut remplacer quelqu'un, entre autres un professeur. C'est ça ma première question.
Oui.
Deuxième question est de savoir, entre un professeur et un assistant, une fois le professeur tombe malade, est-ce qu'il sera en mesure de laisser tous ses objets, ses archives à son assistant qu'à ses enfants?
D'accord, merci. Parce que
ici chez nous, Oui, les professeurs sont souvent des égoïstes, ils s'approprient seulement eux-mêmes, ils ne veulent pas donner tout aux assistants. Je vous remercie, monsieur le journaliste.
D'accord. Neville, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je voudrais poser la question pour savoir, en général, la politique des relèves fait défaut, pas seulement dans le secteur de l'éducation ou soit dans les universités, dans notre pays. Donc les gens n'ont pas la culture de quitter et laisser d'autres et de préparer évidemment. Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour cultiver la relève dans les mentales du Congolais, non seulement dans les secteurs de l'université, mais partout ailleurs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, face aux rendements marginaux décroissants de l'éducation, donc depuis des décennies, l'éducation est en train de dégringoler et il se crée dans les chefs des profs, des chefs de travaux, un climat de méfiance. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment confiance en la génération. Vous voyez là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer cette confiance-là? Parce que les enseignants, eux-mêmes, quand ils enseignent, ils disent, mais cette génération ici, je ne vois personne qui peut me remplacer ici. Et bon, vous voyez là, en amont, il n'y a pas quelque chose qui se prépare pour améliorer le secteur de l'enseignement. Ceux qui ont bénéficié de cette éducation avant, ils ont quand même la matière, mais quand ils regardent ce qu'ils font, ils se disent, bon, finalement, on va creuser la tombe pour d'autres générations. Et puis, ils n'ont vraiment pas de confiance pour propulser les autres.
D'accord. Willy, merci Neville. Willy Passa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui.
On vous écoute, Willy.
J'aimerais d'abord poser une question au professeur et après apporter une petite contribution.
Oui.
Je demande au professeur, est-ce que le problème que nous avons aujourd'hui pour parler de la relève au niveau de nos universités, est-ce que ce n'est pas un problème de déficit de management dans les chefs de responsables de nos universités? Ça, c'est la première question que je pose au professeur. Mmh. Alors, ma contribution, je crois que c'est vraiment un problème qui gangrène notre pays. Je crois que c'est au niveau du choix des hommes dans à tous les niveaux pratiquement. Je crois que c'est un problème de profil et ces problèmes-là doivent être résolus par les hommes et les femmes qui ont la responsabilité justement de préparer cette relève. Encore une fois, je parle de responsables, de managers des universités. Parce que si on parle on observe le clientélisme, le tribalisme, le népotisme dans les recrutements, c'est encore une fois le problème de managers des universités.
Oui.
Je ne sais pas quel est le profil des hommes et des femmes à qui on accorde la responsabilité de gérer nos universités. C'est à ce niveau, à mon sens, que le problème se trouve.
Voilà. D'accord. Merci Willy Passa de Kinshasa. Professeur Barthélémy, vous avez suivi les différentes interventions des auditeurs. On commence avec Neville qui a appelé de Kinshasa. Non, avec Serge qui nous a appelé de Kinshasa. Il dit à quel âge on peut remplacer un professeur. Est-ce qu'il y a un âge pour remplacer un enseignant?
Merci Neville, merci à tous les amis qui ont pu poser des questions, apporter des contributions. Il n'y a pas un âge. Un professeur n'est pas un fonctionnaire tout court. D'abord, par rapport à sa formation, par rapport à sa carrière. Et donc, c'est lorsque le professeur, normalement, le professeur se sent fatigué.
À quel âge il doit prendre sa retraite?
Généralement, 62 ans.
62 ans.
62, 64 ans, c'est bonne mémoire.
Oui.
Mais c'est pas un monsieur ou une dame qu'on peut remplacer comme ça, comme si on était à la fonction publique. Même à la fonction publique, il y a des postes où il faut réellement avoir un remplaçant qui a été bien formé pour pouvoir remplacer son... À partir du moment où le professeur se sent encore fort, il peut apporter quelque chose. Mais la charge du travail doit diminuer. 65 ans pour quelqu'un qui a commencé à travailler dans ce secteur depuis 25 ans, c'est déjà trop. C'est déjà trop, ça fait 40 ans de travail. C'est beaucoup. Pour un professeur.
Bien.
Bien, le professeur peut laisser ses archives à son assistant. Tout dépend des rapports, pas forcément à son assistant, tout dépend des rapports que le professeur a. Le professeur, durant sa carrière, n'aura pas qu'un seul assistant.
Il aura plusieurs assistants.
Le professeur peut prendre ses archives et les verser à une bibliothèque. Il peut laisser ça à une bibliothèque, parce que quand il laisse à une bibliothèque, ça ne reste pas seulement à la disposition d'un assistant.
Mais est-ce que la responsabilité de préparer la relève revient au professeur lui-même, ou c'est à l'établissement ou à l'État qui doit mettre en place une politique?
Ça incombe à toutes ces personnalités, toutes ces structures.
Oui.
Oui. Je parle de la politique. Dans la politique, il y a des acteurs. Il y a l'État qui doit mettre en place cette politique. Et les acteurs, il y a
chaque établissement.
L'établissement, il y a le professeur, il y a les candidats ou les assistants. Tout le monde doit...
À chaque niveau.
Oui. Tout le monde doit contribuer à ça. Pourquoi je dis ça? Commençons par l'assistant. Pour pouvoir... Ce n'est pas le professeur qui va faire le travail de l'assistant. Pour devenir docteur, ce n'est pas l'affaire du professeur. Le professeur encourage l'assistant, le professeur motive l'assistant, mais l'assistant doit avoir ça à cœur. Bien. On peut aussi devenir docteur sans être forcément assistant. On peut devenir docteur et plus tard chercheur, professeur, sans forcément
être assistant.
Et nombreux, beaucoup de professeurs aujourd'hui ne sont pas passés par l'assistant. Oui. Et donc, ça doit être également... On peut être docteur...
Mais ils sont devenus chef des travaux et puis ensuite...
Et pour devenir professeur ou docteur, on n'a pas besoin de passer par l'étape de chef des travaux.
Il faut publier. Ça dépend de vos publications.
À partir du moment où vous aimez la recherche, vous pouvez vous inscrire à l'université comme apprenant et satisfaire aux critères d'admissibilité au doctorat. Et donc, vous rentrez dans la filière jusqu'à devenir docteur, à défendre votre thèse. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être assistant, ce qui fait qu'on peut avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Et ils présentent leur thèse. Et s'ils veulent continuer comme enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur, ils déposent son dossier. Et on examine les dossiers et puis ça passe. Il y a la préoccupation de Neville à Kananga. La politique de la relève fait défaut. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour cultiver la culture de la relève? Nous avons un ministère d'éducation à la citoyenneté. Et je crois que ça rentre là-dedans. Mais c'est également le travail du gouvernement d'encadrer sa population. Au niveau des universités, au niveau des dirigeants, ce que disait Willy Passa en rapport avec le déficit de management.
Oui.
Mais justement, quand on parle de la politique, il y a un problème de management. Le problème de management, c'est lorsque vous avez un professeur d'université qui réfléchit en termes du village, mais sa place n'est pas l'université.
Il est professeur d'université, mais il a la mentalité du villageois.
Voilà. Un professeur d'université ne doit pas réfléchir en termes du village pour dire « je ne peux être remplacé que par mon fils, par ma fille, que on ne peut me remplacer que par quelqu'un de mon village, que dans mon village, je suis l'unique professeur et donc il faut qu'on en fabrique. » Non, ça ne se fabrique pas de cette manière-là. C'est un problème de management. On prend un jeune homme, une jeune fille, qui mérite, qui a les capacités.
Oui.
Et donc, le professeur doit pouvoir repérer dans son auditoire des enfants qui n'ont rien à voir avec son village,
Ouais.
Et qui peuvent être capables de pouvoir aller jusqu'au doctorat, parce que c'est pas une mince affaire, aller jusqu'au doctorat. C'est pas le doctorat fabrication made in je ne sais quoi là, mais je parle d'un vrai doctorat qui, à l'issue de la défense d'une thèse de doctorat, la thèse doit être mise sur la place publique. C'est un produit qui doit être consulté régulièrement. Mmh. Pas une thèse qui, aussitôt défendue, on ne sait pas la voir.
Elle disparaît.
Elle disparaît, elle n'est pas dans une bibliothèque.
Je dis. Voilà. Professeur, attendez un instant, on va accueillir des auditeurs et je vous donne la parole après. Assoumani nous appelle de Salamabila au Maniema et Fabien Ilunga est à Lubumbashi. Assoumani, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Assoumani?
Oui, ma question est celle-ci. Est-ce qu'un étudiant vient d'obtenir, par exemple, des distinctions, et cet étudiant est devenu maintenant assistant? Alors, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a une période d'histoire pour cet assistant-là, pour que lui aussi est devenu professeur? C'est par là que j'aimerais avoir un certain renseignement auprès de notre invité par rapport à ça.
D'accord, merci. Fabien, Fabien Ilunga.
Non.
Oui.
Oui, oui. Parce que il y a des universités où les professeurs, donc les assistants, sont là en tilarigo. Or, ces assistants-là, quelques jours, nous voyons l'affichage que non, l'autre n'est plus encore assistant. Il est devenu maintenant professeur, docteur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire par là. C'est par là que j'aimerais avoir un peu un certain renseignement auprès de notre.
D'accord. Fabien Ilunga de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la relève à l'université. Comment préparer la relève? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, ma préoccupation était, entre autres, celle de souligner le fait que votre invité a souligné, a donné peut-être la préoccupation selon laquelle un professeur peut avoir deux emplois, ou soit il est boss quelque part,
oui.
Ou soit il est engagé dans la politique, ou il a quelque chose comme activité au centre-ville.
Oui.
Alors, ma question était de savoir si est-ce qu'il ne peut pas y avoir possibilité de suspendre peut-être le PNIL des fonctions. Parce que sous d'autres cieux, on apprend que si quelqu'un est engagé dans l'université, il ne peut jamais être autorisé à avoir une autre activité. Mais à combien plus forte raison, ici au Congo, on permet à quelqu'un qui est comme professeur à l'université,
hein? D'accord, merci.
Que l'État qui est son seul employeur,
oui.
Hein, le permet d'être en même temps à l'université et aussi dans un emploi quelque part qui est aussi affilié à son même employé qui est l'État.
D'accord, merci. Oui, merci à Fabien. Alors je reviens à vous, à professeur Barthélémy. Il y a Soumani qui a parlé de l'étudiant a obtenu deux distinctions au niveau du graduat, au niveau de la licence. Alors il veut connaître le cheminement, le processus pour enfin devenir docteur.
Ok, merci Assoumani, monsieur Assoumani. Il n'est pas question, c'est pas important d'avoir cinq distinctions. Le problème ici, c'est que lorsqu'on est dans la filière de la recherche, un assistant c'est déjà un chercheur débutant, et la finalité pour un assistant, c'est pas de demeurer assistant chef de travaux, c'est d'arriver jusqu'à devenir professeur, donc docteur.
Et vous avez dit qu'on peut devenir docteur sans
passer par l'assistanat, sans passer par le grade de chef de travaux.
Oui.
Et donc, c'est question simplement que l'assistant s'inscrit dans une école doctorale au pays, j'en connais même pas, ou ailleurs, et dans une filière où il est admissible pour réaliser une thèse de doctorat. Et donc, il n'y a pas de conditions. Les conditions, c'est simplement remplir aux critères et puis se mettre au travail. Pour Fabien, qui revient sur
le cumul des fonctions, est-ce qu'on ne peut pas suspendre cela en prenant une mesure qui interdit à chaque professeur de ne pas cumuler les fonctions?
Oui, déjà, notre administration interdit à un assistant ou à un chef de travaux d'être cumulard. Un assistant ne peut pas être à l'université ou dans un établissement d'enseignement supérieur et ailleurs. Malheureusement, les conditions de vie, les conditions de travail
socio-économiques
poussent. On ne peut pas rester à l'université avec, c'est pas 200 000 francs congolais. Et puis, subvenir à tous ses besoins. Et donc, ces assistants qui aiment bien faire la recherche sont obligés d'aller ailleurs. Et parce que cela fonctionne comme ça, cela a des répercussions sur leur carrière.
Oui.
Et aussi sur le fonctionnement des universités. Mais les textes légaux chez nous interdisent à un assistant de pouvoir être cumulable. Un professeur, le professeur peut être ici et là. Parce que dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire, la mission de l'université, c'est non seulement l'enseignement, la recherche, mais aussi c'est l'appui à la communauté. Et donc le professeur doit... Mais lorsque le professeur doit être quasiment absent à l'université, bon, il faut qu'il choisisse. Ailleurs, effectivement... Lorsqu'on a des fonctions, des hautes fonctions, même dans notre pays, c'est
il
prévu...
Il choisit soit les cabinets politiques ou bien
il
entre
prévu,
les cabinets politiques
il est prévu que lorsqu'on a des charges politiques, des charges administratives ailleurs, on peut prendre une mise en disponibilité. Parce que lorsqu'on est trop absorbé dans l'administration, dans la politique, on n'a plus le temps à consacrer et aux étudiants et aux assistants.
Alors, il y a une question. La plupart des professeurs, à l'époque, ont bénéficié des bourses pour étudier en Europe et ailleurs. Est-ce que ce n'est pas... Aujourd'hui, il n'y a presque plus de bourses. Est-ce que ce n'est pas un frein aussi
C'est vraiment un frein. C'est vraiment un frein.
Le
conseil exécutif de l'époque, la plupart de nos aînés ont bénéficié de ces bourses. Il y a également la coopération internationale qui a fait que beaucoup de collègues ont été en formation à l'extérieur. Aujourd'hui, la plupart des assistants de chefs de travaux, parce qu'au pays, on n'organise pas ce genre de formation, ils triment. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Et donc, si on peut revenir, quand je parlais de la politique, si on peut revenir, par exemple, au système du conseil exécutif, le gouvernement lui-même avait une sorte de planification. Et c'est en parlant de la relève, il faut parler de la planification.
Oui.
Et donc, il faudrait que, en termes de politique, que le gouvernement puisse inscrire cette question à l'ordre du jour.
Le gouvernement fait qu'après chaque 5 ans ou chaque 10 ans, on recrute les éléments qui veulent devenir professeurs et on les encadre, ils ont un encadrement spécial.
Oui, oui. Et c'était ça la politique du conseil exécutif de l'époque. Et on savait qu'on devait avoir des professeurs, des docteurs dans tel domaine. Aujourd'hui, vous avez des établissements qui n'ont pas un seul professeur. Un seul.
Même un seul professeur pour tout un établissement.
Oui. Vous avez des universités qui n'ont que 2, 3, 4 professeurs. Alors que vous avez là-dedans 5, 10 facultés.
Et les autres sont des professeurs visiteurs.
Bon, mais ce sont des cadres supérieurs de l'administration qu'on ramasse à gauche, à droite, qui eux aussi font fonction et des assistants et des professeurs. Ben, c'est extrêmement grave.
Oui. En dehors de la distinction, quelles sont les autres conditions qu'on doit exiger aux candidats qui viennent se préparer à la relève? C'est la question d'un auditeur.
En dehors de la distinction.
De la distinction, oui. Les autres conditions pour se préparer à la relève.
Bon, d'abord, il faut aimer la recherche, parce que ça ne doit pas venir comme ça. Et il faut être compétent, parce que déjà, quand on dit distinction, c'est un critère objectif, mais qui cesse de moins en moins de l'être aujourd'hui. Mais au moins, ça, on peut observer, on voit l'allure de l'étudiant, l'ancien étudiant qui est devenu qui est demandeur d'emploi.
Oui.
Et c'est lorsque il est fort, il montre des aptitudes de pouvoir aller jusqu'à la défense de sa thèse doctorale. C'est parce que c'est aussi un problème. Arriver jusqu'à la défense d'une thèse de doctorat n'est pas une mince affaire. Et donc, il faut avoir déjà des aptitudes dès le départ. Et la personne doit être moralement préparée à ça. Pour faire 3, 4, 5, ben il y a certains qui ont fait 10 ans là-dedans pour pouvoir arriver à une thèse de doctorat. Donc, la distinction ne suffit pas. Après la distinction, il y a beaucoup d'autres critères. Et les critères d'abord individuels, personnels.
Alors, professeur, on dit souvent que le vrai succès appelle des successeurs.
Ok.
Alors, si un grand professeur, soit disparaît ou s'en va sans laisser des successeurs, c'est qu'il a échoué.
Il a échoué, c'est pas vraiment, je ne dirais pas ça. Parce que, bon, la mort, c'est autre chose. Hein. Mais si le professeur avait l'envie de pouvoir avoir un remplaçant, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, le professeur peut avoir parrainé un candidat assistant. Et dès que le candidat assistant commence le travail, il disparaît. Il disparaît du sillage du professeur qui veut bien l'encadrer. Et lorsque le professeur cherche maintenant à le remplacer, à remplacer ce candidat assistant ou cet assistant qui est invisible, le professeur a maintenant des problèmes probablement avec les membres de la coterie notre
le tribal de cet assistant qui a disparu dire,
voilà,
depuis
il,
un moment.
Il veut simplement, il veut le faire partir de l'établissement parce qu'il n'est pas de son village. Alors que lorsque le professeur avait parrainé ce candidat assistant, à l'époque,
il n'était pas question de village.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Bien, on n'a plus assez de temps. Merci, professeur Barthélémy Kalamba et Banda, démographe. Je pense qu'on aura l'occasion de parler de ces sujets une autre fois. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, Jean-Denis.